Je vais céder la parole à Sylvie Protin, qui est traductrice, entre autres, de Cortázar. On lui doit l'édition du Quarto, consacré à Cortázar, chez Gallimard. Il a été placé sous sa direction. Cette édition a été placée sous sa direction, ainsi que deux colloques, entre autres, cette année, et ces journées qui ponctuent l'année Cortázar, ces jours-ci. Le colloque qui a été organisé à la Marelle à Marseille avec Pascal Jourdana, et bien sûr le colloque de Fontevraud, organisé par la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. C'était en juin, peut-être ? Non, je me trompe, Patrick. Enfin, c'était peu importe. Voilà, c'était cette année. Sylvie Protin, une poétique de l'analogie.
Merci beaucoup. Julio Cortázar ne s'est jamais défini comme un écrivain professionnel. C'est grâce à la traduction, aussi bien littéraire que technique, qu'il gagne sa vie depuis le milieu des années 40, et cette activité a une importance décisive sur la constitution de son œuvre. Le grand saut se produit certainement entre 1946 et 1948. À cette date, il vient de quitter l'enseignement et l'avenir de fonctionnaire que lui avait rêvé sa famille. Il écrit deux essais fondamentaux pour sa poétique future, L'urne grecque dans la poésie de John Keats dont nous avons parlé, et Théorie du tunnel. Donc, pour plus de clarté envers les hispanophones, je donnerai ici en français les noms des textes étrangers, même s'ils n'ont pas été traduits, et je traduirai les citations, sauf lorsque je veux réfléchir sur le processus de traduction. Il publie dans ces années-là plusieurs traductions importantes. D'abord, l'année d'avant, le Robinson Crusoe de Defoe, puis un recueil de nouvelles de Chesterton, L'homme qui en savait trop, un récit de Walter de la Mare, Miniature ou les mémoires de Miss M, un excellent roman de Giono, Naissance de l'Odyssée, le célèbre essai de l'abbé Brémond, La poésie pure, et enfin le grand roman de Gide, Les moralistes. Avec Natacha Gutman, une amie, il travaille également à la traduction d'une anthologie de poèmes de Cocteau, qui reste inédite, et écrit autour de cette expérience contrariée le conte Lettre à une amie en voyage. Il n'a encore que très peu édité de fiction. Borges publie deux de ses contes, Maison occupée et Bestiaire, dans sa revue. Enfin, il suit un cours accéléré pour devenir traductor publico de l'anglais et du français, c'est-à-dire traducteur technique exerçant en libéral. Nous voilà face à un concentré de décisions, de positionnements, qui font d'une posture de vie et d'écriture. Ce que je vous propose ici, c'est de retourner ce tissu bio-bibliographique pour laisser apparaître les nœuds, les reprises, les écarts dans la tapisserie, où se joue en réalité toute l'œuvre à venir. C'est dans ces années-là qu'il a abandonné le pseudonyme de Julio Denis, sous lequel il avait publié en 1933 son premier recueil de poèmes, puis son second prénom, Julio Florencio Cortázar, ou même son initiale, Julio F. Cortázar, qui dans ses publications lui avait d'abord servi à se distinguer de son père, aussi nommé Julio Cortázar. Ce père problématique qui avait abandonné le foyer familial dans sa petite enfance. Donc si l'on comprend bien, il y a eu un détour, une quête de l'identité autorielle qui, partie de l'autre, le pseudonyme, finit par revenir à son propre nom. À la fin des années 40, il assume donc désormais une écriture pleinement sienne sous le nom Julio Cortázar. Or, en 1949, il répondra ceci à une lettre de son père qui lui demande de cesser de signer Julio Cortázar. Je cite en espagnol ici, car c'est une lettre très distante, un reflet de la relation entre les deux, Julio Cortázar, si je peux dire, où chaque mot est vraiment pesé. Il dit ceci. « Por una simple razón de mantenimiento profesional de mi nombre, sumándose a otra de eufonía que me interesa más que la anterior, no puedo incorporar mi segundo nombre, ni siquiera su inicial. Desde el punto de vista del que publica, esto tiene su importancia. »
Pour comprendre, ça veut dire pour une raison de protection professionnelle de mon nom, couplée à une autre de nature euphonique qui m'importe plus que la première, je ne peux pas incorporer mon second prénom, ni même son initial. Depuis le point de vue de celui qui publie, cela a son importance. Mais revenons sur l'espagnol.
Le mantenimiento profesional de mi nombre, donc le fait de maintenir son nom, c'est ce que ça signifie. Mais le mot mantener est utilisé également en espagnol pour dire mantener a su familia, c'est-à-dire subvenir aux besoins de la famille. Or, c'est bien lui, le fils, qui fait vivre sa mère, sa sœur et sa tante par son activité professionnelle. Il utilise aussi ce mot curieux dans ce contexte, incorporar, incorporer, incorporer un nom. Il existe ainsi un corps autoriel dont la raison d'être, dont l'importance est d'ordre euphonique, musical donc, dit-il. Et ce corps ne se laisse plus déformer. Ce corps autoriel acquis, cet espace poétique fondamental, nous pensons qu'il s'est formé lui aussi dans le détour, dans la traduction, dans le rapport à l'autre qui permet un retour, un soi-même redécouvert. Ce mouvement, c'est exactement celui qu'Antoine Berman nommait la Bildung, la transformation opérée par la traduction. Ce corps autoriel du jeune Cortázar, c'est avant tout une série de valeurs littéraires, dont la première est la musicalité, on vient de le voir. En quoi la traduction sert-elle à l'élaboration de ces valeurs? Pour expliciter cela, nous allons prendre une métaphore toute cortázarienne, celle de la boxe. La confrontation au texte de l'autre rappelle ce combat où la force de l'adversaire vient de l'usage qu'il fait de son espace fondamental, de son mouvement, de son rythme, de ses pointes de puissance, de ses appuis. En somme, c'est ce qu'il fait de sa différence, de son économie propre. Tenir tout un round face à un adversaire de poids signifie une attention, une écoute de ses singularités, une recherche de ce qui, dans son propre espace, depuis sa propre différence, pourra permettre de lui faire face. Ainsi, traduire, c'est se confronter à ce qu'un autre créateur a fait de sa liberté, de son appréhension du monde, de son rapport au langage. Dans Théorie du tunnel, rédigée en 1947, alors qu'il est en train de traduire Les moralistes de Gide, il décrit exactement ceci. Je cite. On se rend compte, et mieux que personne, notre jeune écrivain rebelle, à quel point les difficultés expressives que posent aux écrivains les limitations de la langue ou même du style se traduisent, comme chez Valéry, en exercice fécond, et à quel point un Proust, un Gide, se complaisent à affronter ces difficultés pour le plaisir de les résoudre harmonieusement. Ils les imaginent, distribuant admirablement les meubles dans la pièce livre, profitant de tout l'espace et l'extension disponible et possible, prenant le pas sur les décorateurs du passé, cherchant un meilleur équilibre entre la taille et la ligne des meubles relativement à la forme, aux dimensions et aux possibilités de la pièce. Il arrive un moment où ils voient tout, ils calculent tout, ils résolvent tout, mais ils sont aveugles à ce qu'il y a au-delà des murs. Ils les utilisent comme un rebond, comme une réaction programmée qui leur fournit des forces nouvelles, tel le poète dans un sonnet, cette maison de 14 pièces. Ils font comme le boxeur, qui profite de l'élasticité des cordes pour redoubler la violence de son attaque. Ils se conforment. Fin de la citation. Donc on le voit, dans ce dialogisme naît un positionnement, un projet littéraire propre. Le jeune écrivain rebelle qu'est Cortázar ne veut pas se conformer aux finalités d'une littérature esthétisante et cherche des voies pour sortir de la maison livre, pour explorer ce qu'il y a au-delà des murs, dit-il, c'est-à-dire un certain rapport au réel. Notons que cette dialectique de l'altérité est une constante dans toute l'œuvre de Cortázar. Même lorsqu'il ne traduit pas, il va sans cesse convoquer et installer des instances du double. On le sait, les personnages ont des doppelgangers, ont des doubles. Certains textes sont écrits sur des images qui parfois apparaissent dans le conte, par exemple. D'autres sont écrits sur des musiques, donc on convoque une altérité, un autre créateur. Le lecteur, très souvent, est également convoqué comme co-créateur dans les textes de Cortázar. Donc on le voit, la confrontation avec l'espace poétique fondamental de l'autre permet de progresser dans le sien, dans son propre espace. C'est exactement l'idée qu'il développe en 1946 déjà, dans l'urne grecque, dans la poésie de John Keats, que je considère pour ma part comme un essai traductologique. Dans ce long texte, il analyse et traduit un des poèmes majeurs de Keats dont nous avons parlé, Ode sur une urne grecque, où le poète anglais choisit comme matière narrative exclusive une céramique antique qui porte une frise très narrative. Cortázar demande: quelle valeur particulière a le fait de décrire quelque chose qui est déjà une description? le céramiste de l'urne, a pratiqué une première élimination et n'a transféré à ses lignes pures que les éléments dominants du paysage et de l'action. On est face à une œuvre d'art, avec tout ce que cela suppose de morcellement, de synthèse, de choix et d'ajustement. Fin de la citation. On pourrait répondre, de même, quelle valeur particulière a le fait de traduire, c'est-à-dire d'écrire un poème qui est déjà écrit. Ici, Cortázar répond qu'il y a deux façons d'opérer ce déplacement. Soit on le fait en imitant les valeurs formelles de l'original, comme l'architecture néoclassique imitait les formes antiques sans réussir à produire la force d'un Parthénon. Soit on traduit en poète. Il dit « À la voie normative de la reconstruction et de la typification synthétique s'oppose, comme on l'aura deviné, la voie de l'identification intuitive, hein, on en a parlé tout à l'heure, appréhension personnelle de type poétique, incommunicable autrement que par un acte de recréation analogue. » La traduction comme acte de recréation analogue. Donc cette identification intuitive, pour Cortázar, c'est la caractéristique de tout poète, celle d'être un autre, écrit-il, d'être toujours dans et depuis autre chose. Dès lors, ce n'est plus la forme qu'on imite. On n'écrit pas à la suite de l'auteur original, on écrit avec lui, au milieu de l'écriture. C'est le sens des deux préfixes grecs « apo » de « apographo » et « meta » de « metaphéro » qui déterminent ces deux voies très différentes du traduire en grec ancien selon Georges Maillot. Cortázar fait donc sienne cette méthode de Keats. « Si un moineau vient à ma fenêtre, je prends part à son existence » et picore les gravillons. Ça, c'est une phrase qu'il reprendra, c'est une phrase de Keats, donc il reprendra à plusieurs reprises dans sa propre production. Nous reconnaissons ici un concept dont Cortázar s'empare à plusieurs reprises ensuite, dans La case du caméléon par exemple, l'eifulung ou empathie, qui suppose une sortie de soi, une façon de ressentir en soi ce que ressent l'autre. C'est ce que Keats nomme la oneness, on en a parlé également. Et pour Cortázar, c'est une méthode, une gestion de l'attention fondamentale. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette empathie traductive ne suppose jamais, chez Cortázar, une annulation de lui-même. Il ne s'oblitère pas face au texte à traduire. Il ne cherche pas la transparence, mais l'adhérence, la coïncidence. Ainsi, la traduction est aussi un espace d'action poétique. Pour l'ode à une urne grecque, lorsqu'il traduit le célèbre vers « Pipe to the spirit deities of no tone », il ne dit pas, comme Paul Gallimard en français, « des ballades pour l'esprit sans sonorité ». Au contraire, il traduit « tocad para el espíritu músicas silenciosas », ce qui littéralement signifie « jouer pour l'esprit des musiques silencieuses ». Autrement dit, le traducteur convoque ici Mallarmé et sa musicienne du silence pour traduire. Dans le commentaire qu'il fait du poème, il cite les vers correspondants de Sainte, donc il est tout à fait, c'est pas une coïncidence, c'est tout à fait quelque chose qu'il fait volontairement. Cela signifie que Cortázar traduit en mettant en scène sa position réceptive, et ce faisant, il crée en toute conscience un anachronisme, puisque dans son texte, Keats fait référence à Mallarmé. On le voit, je crois, Cortázar ne s'oblitère pas. Tout au contraire, il agit dans son espace poétique et il crée déjà un de ces passages fantastiques qui seront légion dans son œuvre, qu'on se souvienne par exemple de l'autre ciel ou le passage Güemes de Buenos Aires au XXe siècle, communiqué avec le quartier de la Bourse à Paris à l'époque de Lautréamont. On retrouve ici c'est la notion bermanienne de traduction-manifestation. L'espace poétique fondamental de Cortázar a donc une autre valeur en plus de la musicalité. Il ne croit pas à la linéarité temporelle, pas plus qu'au principe d'identité. Il croit au contraire à l'analogie qu'il nommera plus tard le paratonnerre de l'attention. On trouvera un autre exemple de ceci dans le manuscrit où Cortázar traduisait les poèmes de Cocteau. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous allons prendre un exemple. Le poème qui s'intitule « Joueur dormant à l'ombre », l'ombre avec un H majuscule. Où dès le titre, Cocteau crée une métonymie entre l'ombre avec un H, c'est-à-dire un jeu de cartes aujourd'hui désuet,
et l'ombre du milieu de la journée, l'ombre de la chaleur, dont l'épaisseur semble envahir tout le poème original. Et c'est ce glissement, hein, ainsi que la musicalité du poème, bien sûr, qui intéresse Cortázar. Mais évidemment, ce jeu de mots ne fonctionne pas en espagnol. Hein. Ombre avec un H, ombre sans H, ça ne marche pas. Qu'à cela ne tienne, il ajoute une note, ce qu'il fait plus que rarement quand il traduit, donc c'est vraiment intéressant. Et cela donne ceci, le titre « Jugadores durmiendo a la sombra ». Note. « Buscando conservar el juego de palabras, traduzco sombra por sombra el juego de naipes, ombre, avec un H, que se pronuncia como ombre, sombra. Voulant conserver le jeu de mots, je traduis par sombra, le jeu de cartes, ombre avec un H, qui se prononce comme ombre, sombra. » Si on le comprend bien, en réalité, cette note est une règle du jeu. Durant la lecture du poème, gentil lecteur fait comme si le mot espagnol « sombra » avait le sens d'un jeu de cartes, ce qu'il n'a pas. C'est très intéressant et culotté, parce que ici, en fait, il fait appel à la « suspension of disbelief » de Coleridge, c'est-à-dire à la suspension consentie de l'incrédulité du lecteur face à un texte fantastique. Là encore, la traduction est un espace d'action et d'affirmation de son identité autoriale. Ici, déjà, Cortázar décide de ne pas respecter la langue. Il décide de jouer à la resémantiser. Dans « Théorie du tunnel », écrit la même année, il dit « L'histoire de la littérature est la lente gestation puis croissance de cette rébellion contre le verbe énonciatif. Les écrivains démultiplient les possibilités de la langue, l'amènent à sa limite, cherchant toujours une expression plus immédiate, plus proche du fait en soi qu'ils sentent et veulent manifester, c'est-à-dire une expression non esthétique, non littéraire, non idiomatique, en majuscule, l'écrivain est l'ennemi potentiel et aujourd'hui bien réel de la langue. Le grammairien le sait, et c'est pour cela qu'il est toujours vigilant, dénonçant les abus et les transgressions, effrayé par cette lente dislocation d'une mécanique que lui conçoit ordonnée fixe comme une parfaite, une infaillible machine d'énonciation. » Fin de la citation. Or, on l'a dit, ce projet de traduction de Cocteau n'est pas arrivé à son terme. En effet, Cortázar devait traduire avec Natacha Gutmann, qui finalement part vivre quelque temps à Paris. Il traduit donc seul et lui envoie ses traductions. Il reçoit une copie caviardée de plus de 400 corrections. Pour ce poème, par exemple, Natacha Gutmann barre tous les sombras et écrit en marge « Je ne suis pas d'accord avec vous, Julio. Je crois qu'il faut garder le jeu de mots « ombre » qui est un mot espagnol. Et en plus, il y a une possibilité de confusion. On imagine aisément la réaction de Cortázar face à ces corrections, qui rappellent le grammairien dénonçant les transgressions dont on vient de parler. De son côté, au contraire, c'est bien ici la confusion de la métonymie qu'il recherchait et qu'il exploitait poétiquement. On voit bien que le rapport intrépide au langage fait partie de ses valeurs, de son corps autoriel, tout comme le fait de proposer au lecteur un jeu, un contrat de lecture. Comme nous l'avons dit, en réponse voilée à ces corrections, Cortázar écrit le conte « Lettre à une amie en voyage ». Le premier paragraphe de ce conte devient lumineux quant à sa poétique, si l'on se souvient de « Théorie du tunnel » et de « La maison bien ordonnée », dont on parlait, comme métaphore de la littérature conformiste. Donc, je vais vous lire le début de « Lettre à une amie en voyage » dans la traduction de Laure Bataillon, publiée dans Bestiaire. Excusez-moi. Je ne voulais pas venir vivre dans votre appartement de la rue Suipacha, André. Non pas tant à cause des petits lapins, mais parce qu'il m'est pénible de faire irruption dans un ordre établi, prévu jusque dans les moindres mailles de l'air, celle qui garde chez vous la musique de la lavande, le frémissement d'une houppette à poudre, le dialogue du violon et de l'alto dans le quatuor de Rara. Il m'est douloureux d'entrer dans un lieu où quelqu'un qui aime vivre harmonieusement a disposé chaque chose comme un reflet visible de son âme. Ici, les livres. D'un côté, les Espagnols. De l'autre, les Français et les Anglais. Là, les coussins verts. Et à cet endroit précis, la petite table, le cendrier qui a l'air d'une bulle de savon coupée en deux, et toujours un parfum, un son, un étirement de plantes, une photo d'amis morts, ou tout un rituel de plateau à thé et de pince à sucre. L'ordre conformiste de la maison de la littérature conformiste. Ah, cher André, qu'il est difficile de s'intégrer, même si l'on s'y soumet entièrement, à l'ordre minutieux qu'une femme instaure subtilement autour d'elle.
les corrections, les 400 corrections en rouge. Quel geste coupable que celui de prendre cette petite coupe de métal et de la poser à l'autre bout de la table, de la mettre là simplement parce qu'on a apporté ces dictionnaires anglais et qu'il les faudra de ce côté-là pour les avoir à portée de main. Chez Cortázar, on n'a pas la littérature espagnole d'un côté, la littérature française et anglaise de l'autre. Il y a une circulation. Déplacer cette coupe, c'est pire qu'un rouge horrible au milieu d'une modulation d'Ozenfant. C'est comme si soudain les cordes de toutes les contrebasses s'éclataient en même temps avec le même claquement épouvantable au moment le plus secret d'une symphonie de Mozart. Déplacer cette coupe altère le jeu des rapports établis entre tous les objets de cette maison, entre chaque moment de leur âme et l'âme entière de la maison et de son habitante lointaine. Je ne peux pas avancer la main vers un livre, modifier à peine le cône de lumière d'une lampe, soulever le couvercle du pick-up sans éprouver un sentiment de provocation et d'outrage qui me passe devant les yeux comme une bande de moineaux.
Fin de la citation. Dans cette traduction, le déplacement, la coupe de métal qu'il déplace, la référence, avancer la main vers un livre, la focalisation de l'image, le cône de lumière que l'on déplace, la musicalité du verre, le pick-up que l'on ouvre, sont autant de moyens pour Cortázar pour essayer de retrouver la oneness, pour faire en sorte que l'on retrouve les moineaux de l'empathie chez Keats, les moineaux qui picorent le gravier. Mais dans l'ordre fermé de ce rapport castrant au langage, cette poétique de l'analogie est un attentat destructeur. Le jeune traducteur rebelle continue en effet en expliquant que, de façon irrépréhensible, il vomit des petits lapins. La première minute, le premier moment où ce flocon tiède et animé révèle une présence inaliénable, comme un poème qui vient de naître, le fruit d'une nuit dit du mai, et qui vous appartient autant que vous-même. Donc cette manifestation fantastique, le petit lapin, c'est la poésie qui surgit dans le texte traduit. Il dit « présence inaliénable », qu'on se souvienne que « présence » était le titre du premier recueil de poésie de Cortázar. Il convoque d'ailleurs ici Mallarmé et son insomnie créatrice avec le premier vers de don du poème « Je t'apporte l'enfant d'une nuit dit du mai ». Si l'on vomit un petit lapin, si l'on atteint la manifestation poétique par l'identification analogique, le texte traduit vous appartient autant que vous-même. Mais cette expérience se heurte dans tout le conte à l'ordre établi de René Natacha. La manifestation poétique qui doit se vivre dans la manifestation poétique doit se vivre dans la clandestinité. Il faut cacher les lapins. Le narrateur prévoit donc une fin tragique. Pour empêcher la destruction totale de la maison livre, il faudra tuer les lapins et, pour qu'on ne les voie pas, se suicider soi-même en même temps. D'une certaine façon, on le voit, c'est dans le suicide symbolique de cette instance coupable et clandestine que naît l'un des tout premiers contes qui sera publié du vivant de Cortázar. Pour conclure, toute la poétique de Cortázar est donc déjà à l'œuvre, on le voit, dans ces trois années, 1946, 1947, 1948. Il a acquis une identité autorielle par la traduction de la littérature française et anglaise. Avec Keats, il a appris une méthode, la poétique de l'analogie, où poétique a vraiment le sens grec du poiein, du faire. Elle lui permet de se positionner fructueusement face à l'altérité, tout en faisant corps avec les valeurs de son projet d'écriture. Le jeu, la musicalité, le combat amoureux contre la langue, le refus de la linéarité temporelle et de la logique aristotélicienne servent à exprimer cette coprésence qui, plus qu'esthétique, est en réalité la marque d'une conscience dans le monde. Tout Cortázar est là. Désormais, il ne lui reste qu'à produire son œuvre, à sortir de la clandestinité. Je vous remercie.